Te remercions, Seigneur, pour ces instants. Te remettons aussi chacun de nos cœurs. Mets ici la paix, Seigneur, et les écoutes qu'il lui faut pour ta parole. Merci de m'accompagner. Merci pour tout ce que tu fais pour nous et pour ces instants. Amen. Amen. Alors, plutôt que faire une étude biblique, dont je ne serai pas capable, je vous apporte une parole qui va nous être un peu utile pour la prière. Il y a quelques semaines, nous avons parlé de la fidélité de Dieu. C'était Alain qui l'a présenté. Il avait pris des exemples dans la parole qui montraient que Dieu est fidèle pour ses enfants, pour ceux qui le suivent et ceux qui crient à lui à des instants précis. Il nous avait parlé notamment d'Abraham et la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et Dieu n'a pas abandonné ce serviteur. Ceci est resté dans mon esprit jusqu'à maintenant. Dieu est fidèle, c'est sa nature, il est vrai, il ne ment pas, c'est ce qui nous avait été démontré, il n'abandonne pas ses enfants, il n'abandonne pas ses serviteurs. Par quels moyens pouvons-nous être sûrs de cette fidélité? Nous en sommes sûrs parce que c'est marqué dans la parole. Dans les expériences de nos vies déjà, on peut voir avec un regard en arrière dans le rétroviseur que Dieu est fidèle, et qui nous a bien secourus dans des situations plus ou moins dangereuses aussi, mais des situations compliquées. Il y a toujours une réponse au bout. Mais pour toutes les demandes du moment de prière qui va suivre, dont nous allons avoir maintenant, qu'est-ce qui va nous rassurer? Qu'est-ce qui va nous mettre en paix par rapport à nos demandes? Il y a bien des sujets que nous prions depuis longtemps et qui ne voient pas le bout, mais nous allons quand même nous rassurer maintenant. Alors, si on fait un parallèle avec notre société, pour qu'une relation de confiance s'installe entre deux personnes, s'instaure entre deux personnes ou deux sociétés, par exemple, il y a un contrat. Et ce contrat est le plus souvent écrit. Ça peut être un contrat de mariage entre deux personnes, c'est quelque chose d'écrit. Les contrats de vente entre les commerciaux sont écrits dans tous les détails et bien d'autres encore sont écrits. Dans tous les cas, il est écrit ce qui fige l'accord et les conditions. Eh bien, pour nous, Dieu a écrit les termes du contrat dans sa parole, et cela s'appelle les promesses. Il est fidèle avec nous, il a certifié toutes ses promesses dans sa parole. Alors nous avons, nous, la chance d'avoir accès à la Bible et donc à toutes ses promesses. Dieu est invariable, et ce qu'il a écrit dedans, donc dans la parole, est aussi vivant qu'au moment où ses serviteurs l'ont écrit. Elles sont données pour être vécues, pour être expérimentées, et aussi pour être rappelées au Seigneur dans nos prières. J'y reviendrai là-dessus. Alors, pour illustrer mon propos, je vais vous lire la préface d'un livre qui est bien connu, c'est « Les trésors de la foi », parce que bien du monde le connaît, de Spurgeon. Il a relevé des dizaines de promesses de la parole. Il en a fait 365 jours, mais bon, il n'y a pas que des promesses, mais beaucoup. Et il a fait ce merveilleux registre dans une situation, il l'écrit dans une situation qui n'était pas la meilleure. Je cite, « Il était tenaillé par la douleur et la maladie. » Et donc, il a écrit ce livre 5 ans avant de mourir. Alors, j'ai trouvé cette préface bien intéressante et surtout, bien sûr, édifiante. Elle permet de comprendre la démarche qui doit être celle de nos cœurs pour accéder à l'assurance des promesses du Seigneur, celles qui sont inscrites dans sa parole. Alors je vais vous en lire un extrait, pas tout lire parce que ça fait plusieurs pages, mais ce que j'ai choisi, voilà. Une promesse venant de Dieu peut se comparer de façon très appropriée à un chèque payable sur présentation. Le Seigneur le donne aux croyants dans l'intention de lui accorder quelques bonnes grâces. Cette promesse n'est pas faite pour être simplement lue, examinée avec plaisir, puis mise de côté sans plus. Non, le croyant doit la traiter comme une chose réelle, de la même manière qu'un homme utilise un chèque qu'il reçoit. Il lui faut prendre la promesse, l'endosser de son propre nom, la recevant ainsi personnellement, comme étant vrai. Il lui faut, par la foi, l'accepter comme lui appartenant. Il déclare ainsi publiquement que Dieu est vrai, en particulier pour ce qui concerne cette parole spécifiquement de promesse. Le croyant va plus loin encore. Il croit déjà posséder la bénédiction dont il a reçu la promesse sûre. Il y appose donc son nom pour témoigner en avoir effectivement reçu la bénédiction. Ceci étant fait, il faut présenter dans la foi la promesse au Seigneur. J'ai trouvé cette phrase très intéressante, mais surtout très importante. Nous devons présenter au Seigneur les promesses qu'il a inscrites dans sa parole. Comme un homme amène un chèque au comptoir de la banque, il doit la réclamer dans la prière et s'attendre à la voir s'accomplir. S'il vient à la banque céleste le bonjour, il recevra immédiatement le montant promis. Si la date n'est pas encore arrivée, il doit attendre dans la patience jusqu'à ce que le temps arrive. En attendant, il peut compter la promesse comme étant de l'argent, car la banque en paiera le montant exact quand la date arrivera. Certains oublient d'endosser le chèque par la foi. Ils n'obtiennent donc rien. D'autres traînent à le présenter. Eux non plus ne reçoivent rien. La faute ne réside pas dans la promesse, mais elle provient de ceux qui ne l'emploient pas selon le bon sens ni de la bonne manière établie. Dieu n'a jamais donné un engagement qu'il ne tiendra pas, ni encouragé un espoir qu'il n'a pas l'intention de satisfaire. Ça c'est important, je relis la phrase, ni encouragé un espoir qu'il n'a pas l'intention de satisfaire. Donc c'est Spurgeon qui parle. « J'ai préparé ce volume dans le but d'aider mes frères à croire cela. La vue des promesses elles-mêmes est un bienfait pour les yeux de la foi. Plus nous étudions les paroles de la grâce, plus nous tirons de grâce de ces paroles. Aux affirmations encourageantes de l'Écriture, j'ai aussi ajouté des témoignages personnels, principalement le fruit des épreuves et des expériences que j'ai connues et traversées. Je crois toutes les promesses de Dieu, mais il y en est certaines que j'ai personnellement essayées et trouvées concrètement vraies, car elles se sont réalisées dans ma vie. J'espère que ceci sera un encouragement réjouissant pour les jeunes et une source de consolation pour les plus âgés. L'expérience d'un homme peut s'avérer de la plus haute importance pour un autre homme. C'est pourquoi un des écrivains inspirés écrivit naguère « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. » Ou encore « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. » J'ai commencé la rédaction de ces pages quotidiennes à un moment où je pataugeais dans l'écume de la controverse. Depuis, j'ai été plongé dans l'eau qui était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Si Dieu ne m'y avait pas soutenu par sa main puissante, le courant aurait été trop fort pour moi et il m'aurait emporté. J'ai enduré des tribulations venant de nombreux fléaux. Les douleurs physiques aiguës ont suivi d'intenses dépressions de l'esprit et le deuil, le tout accompagné de l'affliction pour une personne qui m'était aussi chère que ma vie. Les vagues arrivaient sur moi sans discontinuer, les unes après les autres. Je ne mentionne pas cela afin de récolter quelques sympathies, mais simplement pour que vous, lecteurs, voyez que je ne suis pas un marin d'eau douce. J'ai traversé des océans qui sont loin d'être pacifiques. Je connais par expérience les déferlantes et les tourbillons, ainsi que les forces des vents. Les promesses de l'Éternel ne m'ont jamais été aussi précieuses que dans de telles heures. Il en est certaines d'entre elles que je n'ai comprises que maintenant. Je n'avais pas encore atteint la date où elles devaient mûrir, car je n'étais pas moi-même mûr pour les recevoir. Ô, puis-je être un instrument de consolation pour certains des serviteurs de mon maître? J'ai écrit ce qui sortait de mon cœur en vue de le consoler les leurs. Au milieu de leurs épreuves, je veux leur dire, « Frères, Dieu est bon. Il ne vous abandonnera pas, mais il vous soutiendra. Il a préparé une promesse pour la situation désespérée où vous vous trouvez actuellement. » Si vous la voyez seulement et la réclamez devant le trône de la grâce par Jésus-Christ, vous verrez la main puissante de Dieu s'étendre vers vous pour vous aider. Toute autre chose échouera, mais la parole durera jamais. Il était si fidèle à mon égard en tellement d'occasions que que je dois vous encourager à vous confier en lui. Je ferai preuve d'ingratitude envers Dieu si je manquais de bonté pour vous et si je ne le faisais pas. Puisse le Saint-Esprit, qui est le Consolateur divin, inspirer une foi renouvelée dans la poitrine du peuple du Seigneur. Je sais pertinemment que, sans l'aide de cette puissance divine, tout ce que je peux dire ne servira à rien. En revanche, grâce à son influence vivifiante, même le témoignage le plus humble et faible servira à affermir les genoux chancelants et fortifier les mains affaiblies. Dieu se glorifie dans la confiance implicite que ses serviteurs lui démontrent. Nous ne pouvons jamais être trop enfants vis-à-vis de notre parole de notre Père Céleste. Nos enfants ne nous posent pas de questions quant à notre désir et notre puissance, mais dès qu'ils ont reçu une promesse de papa, ils se réjouissent à la perspective de son accomplissement, sans jamais douter du fait qu'elle est aussi sûre que le soleil. Mon souhait est que de nombreux lecteurs, que je ne verrai jamais ici-bas, puissent, à la lecture du petit texte journalier que j'ai préparé pour chaque jour de l'année, découvrir le devoir et le délice d'une telle confiance enfantine en Dieu. Voilà donc le texte. Alors, après cette lecture, j'ai relevé quelques idées fortes de ce texte. Il nous dit qu'il doit déjà, il croit déjà posséder la bénédiction dont il a reçu la promesse. C'est donc une position de foi qui nous est demandée. Psaume 38, verset 15 nous dit « Éternel, c'est en toi que j'espère, tu répondras, Seigneur mon Dieu. » C'est donc la foi dans les promesses de Dieu. Ainsi, ceux qui n'endossent pas le chèque, comme ça a été dit, ceux qui n'endossent pas le chèque par la foi, n'auront rien. Alors Claude, ici présent, nous disait vendredi dernier que la grâce était proportionnelle à notre espérance et à notre foi. Et donc il se référait au psaume 33, verset 21 et les versets 21 et 22, que je vous relis. « Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom, éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. » Il y a une histoire de proportionnalité. Une deuxième idée forte de ce texte de Spurgeon, une promesse de Dieu est donnée au croyant afin qu'il en retire une grâce. Non pour qu'il la prenne et la mette de côté ensuite, le chrétien doit considérer une promesse comme une réalité et l'accepter simplement par la foi, scellant ainsi que Dieu est vrai et qu'il dit vrai quand il annonce ses promesses particulières. En conséquence, il doit considérer qu'il possède déjà la bénédiction dont il a reçu la promesse. Il ne reste plus qu'à présenter cette promesse à Dieu. Ça, c'est important, c'est ce que dit Spurgeon dans son texte, que nous devons présenter les promesses de la parole à notre Dieu et prier en comptant sur son accomplissement. Nos espoirs sont très changeants, pour moi aussi, surtout pour moi. Spurgeon nous dit, une parole pareil que j'ai relevée qui m'encourageait, « Dieu n'a jamais encouragé un espoir que le Seigneur n'a pas l'intention de satisfaire. » Ainsi, les espoirs qui restent présents dans nos esprits, et des sujets de prière, on va dire, je parle des demandes que nous faisons ici ensemble, ou que nous faisons personnellement, c'est des sujets importants pour nous. Les demandes sont pour nos familles, elles sont pour l'Assemblée, elles sont pour tous ceux qui sont autour de nous. Quand Dieu place une pensée dans notre esprit, Dieu attend nos prières. Il attend qu'elle lui soit présentée en s'appuyant sur ce qui est écrit, sur les promesses qu'il a donc inscrites. Alors, sachons répondre à cet appel. Quand le Seigneur met une pensée de prière dans nos cœurs, il faut honorer en lui rappelant sa promesse. Et puis une autre pensée, aussi, il y a le temps des réponses. Le temps appartient au Seigneur. Le moment où il va répondre lui appartient. C'est le temps qui est le meilleur. Qui est le meilleur pour nous aussi, pour lui et pour nous. Je relis la phrase de Spurgeon. Il en est certaines d'entre elles, donc les promesses, il en est certaines d'entre elles que je n'ai comprises que maintenant. Je n'avais pas encore atteint la date où je devais mûrir, car je n'étais moi-même pas assez mûr pour les recevoir et pour en comprendre le sens. Ce qui n'empêche pas nos supplications. Ce n'est pas parce que le Seigneur prend du temps pour répondre que nous ne devons pas le supplier. Mais elles ne doivent pas se transformer en impatience non plus. Je parle en premier pour moi. Dieu est souverain et il m'avait donné un verset. Alors, juste une petite anecdote. Quand nous réunissions à Belfort avec Philippe, il y avait un frère, une connaissance de Philippe, qui était venu. Il nous avait donné un message. Et il nous avait cité ce verset d'Habacuc 2, verset 2, verset 2 et 3, qui est toujours resté présent dans mon esprit et qui est en rapport avec ce que, bien sûr, tout ce qu'on vient de dire. Habacuc 2, verset 2 et 3, l'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie, et nous on pourrait remplacer le terme prophétie par promesse, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Voilà les quelques paroles que je voulais vous donner. Et puis, comme dans nos prières, il y a toujours nos familles, je rappellerai simplement cette promesse qui nous est tous chère, qui est dans Actes 16, verset 31. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Une promesse que nous avons tous besoin dans nos prières. Voilà quelques pensées que je voulais vous donner.